Voici une question bien intéressante. Pourquoi est-ce que Noé et sa famille sont les seuls qui aient été épargnés lors du déluge? Restez avec nous. Nous allons entendre la réponse que donne la parole de Dieu à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ». Bonjour, ici Caro. Êtes-vous prêt à recevoir les réponses que donne la Bible aux questions suivantes? Eh bien, moi je le suis. Voici les questions. Y a-t-il une personne dans la Bible qui pourrait servir d'exemple pour nous apprendre ce que c'est de marcher avec Dieu? Y a-t-il quelqu'un de mentionné dans la Bible qui puisse servir de témoin de ce que Dieu est patient et miséricordieux? Comment est-ce que Dieu voit l'homme? La Bible dit-elle que l'être humain est fondamentalement bon? Pourquoi est-ce que Noé a été épargné lors du déluge? Est-ce que c'était uniquement parce qu'il marchait avec Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il détruit la terre par le déluge? On va avoir la réponse à chacune de ces questions dans quelques instants. Le pasteur Régent Joly a la Bible en main. Il est prêt à nous enseigner ce que Dieu dit dans sa parole. Mais premièrement, prions pour que nos cœurs soient disposés à recevoir tout ce bon enseignement. Merci Seigneur pour ta parole. On est à l'écoute une fois de plus et on désire que tu nous enseignes. Dispose nos cœurs, qu'ils restent disposés pendant tout ce bel enseignement. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'Enoch engendrait Methuselah alors qu'il avait 65 ans et qu'après la naissance de son fils, il marcha avec Dieu. J'aimerais que l'on s'arrête sur cette expression « marcher avec Dieu ». Je ne sais pas comment furent les premiers 65 ans de sa vie. Je pense que ces années furent comme celles de tout le monde. C'était une période de négligence spirituelle, et on s'en allait vers l'époque de Noé, celle du déluge. Mais lorsque le petit Methuselah fut né, Enoch marcha de nouvelle manière. L'enfant l'a amené à se virer vers Dieu. Mes amis, il arrive que Dieu place un enfant dans une famille pour cette raison-là. Et si cet enfant ne vous amène pas à réfléchir aux choses spirituelles, qui va le faire? Pendant les 300 ans qui suivirent la naissance de l'enfant, Enoch marcha avec Dieu. Il engendra d'autres fils et d'autres filles. C'est ce que nous lisons, Genèse 5, verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ce sont les années qu'il passa sur terre. Mais il ne mourut pas. Le texte ne dit pas « et Enoch mourut », mais plutôt le texte dit et précise, Genèse 5, verset 24, « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Marcher avec Dieu. Je crois que la meilleure façon que je connais de décrire cela, c'est celle d'une fillette qui raconte l'histoire à sa maman. Voici ce qu'elle dit. J'ai entendu aujourd'hui l'histoire d'Enoch et comment il marcha avec Dieu. Sa mère lui demanda, « Bien, qu'en est-il d'Enoch ? » Alors, la petite fille raconta l'histoire dans ces mots. Écoutez. Il semble que Dieu passa à la maison d'Enoch chaque jour et lui disait, « Enoch, aimerais-tu faire une marche avec moi ?» Enoch sortait de sa maison, courait jusqu'au trottoir et allait marcher avec Dieu. Il finit par prendre tellement de plaisir à ses marches qu'il se mit à attendre Dieu au trottoir. Dieu passait chaque jour et disait, « Enoch, faisons une marche. » Un jour, Dieu vint et lui dit, « Enoch, faisons une longue marche. J'ai beaucoup de choses à te dire. » Donc, ils marchèrent très, très longtemps et très loin. Vers la fin de l'après-midi, Enoch dit, « Il se fait tard. Je fais mieux de retourner à la maison. » Dieu dit alors à Enoch, « Nous sommes plus près de ma maison que de chez toi. Alors viens chez moi. » Alors Enoch accompagna Dieu chez lui. « Mes amis, je ne vois pas qui pourrait raconter cette histoire mieux que cette fillette?
C'est exactement l'histoire de la Bible. C'est ce qu'elle nous raconte au sujet d'Enoch. Il est parti pour un grand voyage et il entra dans la maison de Dieu. Toutes les grandes vérités bibliques se trouvent à l'état de bourgeon dans le livre de la Genèse. Selon moi, nous avons ici une image de ce qui s'en vient. Nous avons l'enlèvement de l'Église. Avant le jugement du déluge, Dieu enlève Enoch. Verset 27. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans. Puis il mourut. Methuselah vécut plus longtemps qu'Adam. Les vies de ces deux hommes couvrent entièrement tout le temps entre la création et le déluge. Selon la généalogie que nous avons, Methuselah aurait pu tout raconter à Noé au sujet de la création du monde. Pourquoi Methuselah a-t-il vécu plus longtemps que quiconque? Dieu l'a gardé comme témoin afin que le monde sache qu'il est patient et miséricordieux. Dieu vous attend aussi, mes amis, pendant toute votre vie. Pierre parle de la patience de Dieu dans une de ses lettres que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Je cite, « Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Alors que nous lisons la suite de ce chapitre, tous les hommes sont mentionnés ainsi que leur décès. Verset 31 et 32. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Aujourd'hui, il existe une théorie très populaire dans le monde, une théorie que le monde accepte aveuglément, et c'est la conclusion des philosophies humaines. Cette théorie affirme que l'homme est naturellement bon, qu'il a une bonté innée et qu'il peut s'améliorer. Le monde affirme que si on améliore l'environnement de l'homme ainsi que son hérédité, l'homme s'améliorera. Le communisme et le socialisme essaient d'améliorer l'homme. L'arminianisme affirme que l'homme peut contribuer à son salut. Les modernistes affirment que l'homme peut se sauver lui-même. Autrement dit, le salut est un ensemble que Dieu donne à l'homme, mais celui-ci doit le monter lui-même, pièce par pièce, comme certains meubles ou objets qu'il achète. On doit les assembler. Certaines sectes vont jusqu'à dire que l'homme est entièrement bon et qu'il n'y a pas de péché. Que dit Dieu au sujet de l'homme? Dieu dit que le cœur de l'homme est entièrement méchant. C'est notre état à tous. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et je viens de vous citer les Saintes Écritures que nous retrouvons dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 10. C'est l'évaluation que présente la parole de Dieu. Si vous admettez que la Bible a raison, vous aurez un concept plus précis que les autres de la société dans laquelle nous vivons. Voilà l'humanité, et c'est la lignée pieuse dont nous suivons l'histoire. Où est-ce que cela nous mènera? Est-ce que cela mènera à un millénium ici sur Terre? Vont-ils créer un paradis, établir un état utopique? Non, chers amis. Au prochain chapitre, nous apprenons que Dieu a jugé la terre entière au moyen d'un déluge. Cela nous a conduit à la pire de toutes les catastrophes. Maintenant, nous passons au sixième chapitre du livre de la Genèse. Non seulement y verrons-nous le récit du déluge, mais Dieu nous donne la raison de ce jugement sévère. Genèse 6, versets 1 et 2.
lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. La signification des expressions « fils de Dieu » et « filles des hommes » fut l'objet de nombreuses et âpres discussions. Plusieurs érudits, compétents, pensent que les fils de Dieu étaient des anges. Personnellement, je ne peux admettre cette position. C'est pourtant celle que m'ont enseignée la plupart de mes professeurs, et je reconnais que de nombreux commentateurs contemporains croient cela aussi. Cependant, je ne peux pas accepter ce point de vue, car si c'était de bons anges, ils n'auraient pas commis ce péché, et les anges déchus ne seraient jamais appelés fils de Dieu. De plus, ils donnèrent naissance à des hommes, pas à des monstruosités. Je ne sais pas pourquoi beaucoup présupposent que leurs enfants étaient des géants. Nous en reparlerons au verset 4. Poursuivons notre lecture, verset 3. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Nous pensons que Noé fut aussi un prédicateur pendant 120 ans, et que l'Esprit de Dieu a lancé des appels aux hommes. Pierre explique clairement que c'était à l'époque de Noé que l'Esprit de Dieu prêchait aux hommes afin de les amener à Dieu. Mais ils refusèrent de venir à lui. Je cite 1 Pierre chapitre 3, versets 18 et 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ces esprits étaient en prison au moment où Pierre a rédigé ces lignes, mais on leur a prêché à l'époque de Noé. Comment savons-nous cela? Lisons le verset 20 de 1 Pierre chapitre 3. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand furent-ils désobéissants? Pendant que Dieu exerçait sa patience lors des 120 ans de la construction de l'arche à l'époque de Noé. Revenons à Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fit de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le texte dit « les géants étaient sur la terre en ce temps-là ». L'expression « géant » est utilisée à toutes les sauces, comme aujourd'hui. Le géant du matelas, le géant de la patate. Et on grossit, on grossit. Le texte ne dit pas qu'ils étaient les enfants des fils de Dieu et des filles, des hommes. Il dit cependant cela au sujet des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ils n'étaient pas des monstruosités, des géants. Ils n'étaient que des hommes, comme vous et moi. Le texte est clair. Les géants existaient au moment de ces événements. Le texte dit simplement que les enfants étaient des êtres exceptionnels. L'humanité a de grandes capacités. L'homme est une merveille de la création, et nous oublions souvent cette vérité. L'idée que l'homme provient d'une créature unicellulaire, ou d'algues marines, ou d'origine extraterrestre, est entièrement grotesque. Certains scientifiques questionnent sérieusement la théorie de l'évolution et pensent qu'un jour, on n'y croira plus. Le mécanisme de l'évolution n'est pas expliqué, donc la théorie n'est qu'une hypothèse de travail du domaine scientifique. Tant que le mécanisme ne sera pas expliqué, nous ne pouvons l'approuver. C'est une philosophie parmi d'autres, et nous sommes libres de l'admettre ou de la rejeter. Lorsqu'elle est acceptée, elle entraîne la proposition de solutions folles aux problèmes mondiaux. Nous, les Canadiens, pensons avoir un beau pays,
et travailler à la paix mondiale. Nous sommes des chevaliers redresseurs de torts qui s'interposent entre des armées belligérantes. Nous pensons être plus démocratiques et mieux que les autres. Nous pensons que nous avons un beau pays avec une belle démocratie monarchique. Cependant, nous avons, nous aussi, la nature pécheresse. Le cœur des hommes qui se pensent meilleurs qu'ils le sont en réalité les trompe. L'homme souffre des conséquences de la chute et d'une chute très grave. L'homme est dépravé. Et si nous n'en tenons pas compte, nous sommes sur une très mauvaise voie. Donc, qu'avons-nous au verset 4? Selon moi, la Genèse est un livre de généalogie. C'est un livre qui raconte l'histoire de famille. Les fils de Dieu sont de la postérité pieuse de Seth, et les filles des hommes sont de la postérité de Caïn. Ici, les deux postérités se mélangent, se marient entre elles, jusqu'à ce que toute la postérité de Seth soit corrompue, sauf une exception. C'est ce que nous voyons ici. Je reconnais, j'insiste sur cela, que d'excellents commentateurs argumentent que les fils de Dieu sont des anges. Si vous croyez cela, vous n'êtes pas seul, mais je pense que la plupart d'entre vous désirez connaître la vérité. Donc, vous partagerez mon point de vue. Qu'importe la position que vous adopterez, j'espère que nous resterons amis. Ce n'est qu'une question d'interprétation. Ce n'est pas une question de croire ou non en la Bible, mais simplement une question d'interprétation des faits rapportés dans la Bible. Quelles étaient les conditions sur la terre avant le déluge? Qu'est-ce qui a amené Dieu à prononcer un jugement de condamner l'humanité? Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il y a quatre mots sur lesquels il faut mettre l'accent, et je les ai soulignés dans ma Bible. La méchanceté des hommes était grande. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les mots à retenir sont « portaient chaque jour uniquement vers le mal ». Ces mots révèlent l'état de l'humanité à l'époque de Noé. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit. Pourquoi l'Éternel s'est-il repenti? C'est la corruption de l'humanité qui a amené l'Éternel à se repentir. Il semble que l'Éternel ait changé d'idée et qu'il ait décidé d'ôter l'homme de la face de la terre. Il a probablement déjà fait cela avec une création antérieure sur la terre. Même si le péché de l'homme a affligé l'Éternel, il a décidé de ne pas l'exterminer entièrement. Verset 7. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » L'Éternel ne mentionne pas les poissons, puisqu'ils vivent dans l'eau, et que Dieu va se servir d'un déluge. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Noé a-t-il trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Ben, lisons les versets 9 et 10. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Pourquoi Noé fut-il épargné? Est-ce parce qu'il marchait avec Dieu? Oui, mais la Bible nous en révèle davantage. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7, nous lisons. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il fallait une grande foi pour construire une arche alors qu'il n'était même pas encore tombé une petite bruine sur la terre.
Dans ce même chapitre, l'Épître aux Hébreux, nous lisons que c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort.
Voyez-vous, lorsque l'Église sera enlevée, tous les croyants seront enlevés, car Christ viendra pour eux.
Même le plus faible des croyants sera pris.
Cela se produira parce que Dieu est miséricordieux et il manifestera sa miséricorde.
Pourquoi un déluge? Pourquoi Dieu va-t-il provoquer un déluge?
Versets 11 et 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
L'homme a préféré une voie corrompue à celle tracée par Dieu. Il s'est détourné du but pour lequel Dieu l'a créé.
Verset 13. Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Dieu va détruire la terre avec un déluge.
J'aimerais en donner quelques raisons.
L'homme avait reçu la promesse qu'un rédempteur viendrait.
Dieu lui avait dit qu'un sauveur viendrait pour la terre.
L'homme aurait dû attendre la venue de ce sauveur, mais il s'est plutôt détourné de Dieu.
Dieu avait pourvu un sacrifice pour Adam et Ève. Il a établi un grand principe éternel avec Caïn et Abel. Ces deux garçons, Caïn et Abel, représentaient deux types de personnes, les personnes sauvées et les personnes perdues ou condamnées, celles qui se croient justes et celles qui font appel à la justice ou à la miséricorde de Dieu.
Des chrétiens de nom et des croyants sincères.
C'est ce qu'on retrouvait chez la race humaine dans ce temps-là.
Ensuite, nous avons vu que les patriarches vivaient si longtemps que les vies d'Adam et de Methuselah couvraient à elles seules toute la période entre la création et le déluge. Ils ont donc pu transmettre toute révélation reçue à l'humanité, ce qu'ils ont fait. Dans l'Épître à Jude, nous voyons qu'Énoch a prêché et prophétisé dans son temps.
La Bible nous dit aussi que Noé a prêché pendant le temps de la construction de l'arche.
Lorsqu'Énoch fut pris sans voir la mort, ceci aurait dû mettre la puce à l'oreille des gens.
Les gens auraient dû voir que Dieu intervient dans les affaires humaines.
Et encore aujourd'hui, voyez-vous les signes que Dieu envoie à l'humanité? Des signes aujourd'hui, des signes pour notre génération concernant le présent. Des signes qui nous invitent à nous tourner vers lui, cherchant à nous convaincre et à saisir sa miséricorde.
Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 6 verset 14 à Genèse chapitre 7 verset 24.
Merci Régent. Ça a été très touchant d'entendre la manière dont le professeur de l'école du dimanche a fait le récit de l'histoire d'Énoch aux enfants, pour qu'ils comprennent. On a besoin d'être comme des enfants pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dieu n'est pas compliqué. Dieu aime la simplicité. Et toi, mon ami, es-tu comme Énoch? Es-tu de ceux que Dieu visite chaque jour? Est-ce que tu accours quand Dieu t'offre de marcher avec lui? Désires-tu marcher avec lui chaque jour pour entendre ce qu'il a à te dire? Marches-tu constamment avec Dieu à un point tel que tu te sens plus près de sa maison céleste que de ta maison terrestre? Demandons à Dieu de mettre ce désir dans nos cœurs. Joignons-nous au psalmiste qui a dit dans les psaumes au chapitre 84, les versets 11 à 13. Écoutez ça, c'est beau. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Dieu appelle les pécheurs perdus à se repentir, à recevoir le don gratuit de la vie éternelle, en mettant toute leur confiance en Jésus seul pour être sauvés. Et pour nous qui avons déjà reçu ce beau cadeau, Dieu nous invite à marcher avec lui quotidiennement. Il veut qu'on voie combien il est beau, combien il est brillant dans nos vies. C'est là, tout près de lui, qu'on est joyeux, paisible, satisfait, même rassasié. Cherchons pas notre bonheur dans les choses terrestres qui vont bientôt périr, dans les richesses qu'on peut même pas apporter avec nous quand notre heure va sonner. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il aime éclairer notre vie. Puis quand je pense, hein, il dit qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors, si on marche dans l'intégrité, qu'on se confie dans sa parole, qu'on la met en pratique, il ne refuse aucun bien. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons les conseils qu'il nous donne dans sa parole, dans la Bible, afin qu'on prenne des bonnes décisions dans toutes les étapes de notre vie. Puis, n'oublions pas la prière. Dieu aime qu'on lui demande tout ce dont on a besoin. Jésus a dit dans Matthieu 7, 11, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » À minuit, quand c'est arrivé pour le premier jour de l'an, j'ai pigé un verset. J'ai demandé à Dieu qu'il me donne un verset pour débuter mon année. Et c'était ce verset-là que je viens de vous lire. Je vais le relire. « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui les lui demande? »
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly. Bonne fin de semaine et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.